Bonjour et bienvenue comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, avec du son et du sens.
En direct du studio 511, une émission réalisée par Aline Pénito, assistée de Lucie Spindler, avec à la technique aujourd'hui Sacha Tropp et Philippe Duclos.
Au sommaire cette semaine, l'histoire d'Adeline Hischer, au-delà de Kafka et d'Orwell, et éducation prioritaire, donner plus à ceux qui ont moins.
On a là, minimum des droits humains, là. On attaque le minimum.
Ça veut dire quoi, REP, REP plus, moyen? Qu'est-ce que c'est que être en éducation prioritaire?
On est au-delà du Kafka et de Orwell mélangé.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent?
Comme un bruit qui court, qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Je vous dis ça depuis l'aéroport d'Atlanta aux États-Unis, où je suis parti glaner un avant-goût de ce qui nous attend peut-être après nos élections à nous. Ici, les démocrates sont encore en position latérale de sécurité, sous le choc de leur défaite, alors que les républicains sont gagnés par une ébriété toute revancharde. Et l'une des premières conclusions de l'élection de Trump que l'on commence à tirer ici, c'est que quand les politiques n'ont rien de mieux à proposer que leur propre maintien au pouvoir ou la perpétuation d'un système qui broie les plus faibles, alors ces derniers sont prêts à suivre le premier venu qui leur promettra autre chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette semaine, nous vous emmenons sur deux histoires où nos politiques à nous témoignent d'un même horizon bas du plafond, où les seuls compas sont la réduction des dépenses et la lutte contre le terrorisme. Réduction des dépenses, Antoine Chao nous décrit la mobilisation cette semaine contre la baisse des moyens de l'éducation prioritaire dans les quartiers défavorisés. Lutte contre le terrorisme, Charlotte, elle, nous amène à la rencontre d'un individu, Adeline Hischer, chercheur physicien franco-algérien, qui se retrouve aujourd'hui coincé en France comme dans un récit kafkaïen. Comme un bruit qui court jusqu'à 17h sur France Inter, que se passe-t-il quand le seul horizon indépassable est de rester dans les clous?
Antoine Chao, Charlotte Berry,
Yvan-t-il? Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Devant la loi.
Prochain arrêt, Vienne.
Se tient un cap. Un homme vient de loin qui voudrait accéder à la loi. Ne tente pas d'entrer sans ma permission, dit le garde. Je suis très puissant. Avec la permission du garde, l'homme s'assied près du portail. Et là, il attend. Pendant des années, il attend.
Vous êtes un peu en avance?
Ouais, j'attends un peu là.
Que ce soit 14h pile?
Bah, les moteurs plus ou moins une minute.
C'est tous les jours comme ça, à 14h, vous devez aller au commissariat?
9h, 14h, 19h. Hein. C'est 3 fois par jour. C'est... J'aurais dû me trouver un job dans le commissariat, ça serait plus pratique hein, pour tout le monde. Ouais.
Ça va être comme ça jusque quand?
Espérons que ça. Que quelqu'un retrouve la raison le plus tôt possible et qu'on me laisse rentrer chez moi, c'est tout. Je demande tellement à rentrer chez moi, c'est pourtant simple.
C'est où?
Ah, c'est Tif. Là où je suis né, là où j'ai mes racines, là où j'ai tout. Mes parents sont propriétaires là-bas, moi j'ai aussi un petit terrain.
Tenez, monsieur K, voici votre convocation.
Merci.
Ne manquez pas de la présenter en arrivant.
Et quand dois-je me présenter?
Immédiatement.
Je pense que là, ça va être le moment. Si je fais 2 minutes avant, c'est bon. Je pense quand même.
Vous allez au commissariat qui est juste là. Sonne. Une dame qui ouvre une fenêtre. Hop, il signe.
Et ouais.
Ah, c'est tout. Vous signez un papier, vous repartez.
Avant, il y avait plus de vérification, mais maintenant, je pense que ils connaissent encore mieux que leurs enfants. Quoi.
C'est combien de temps que c'est comme ça?
Nous en sommes à 4 mois pratiquement. Demain, ça fera 4 mois depuis mon enlèvement au Brésil. J'ai été enlevé le 15 juillet par la police fédérale. Je me suis retrouvé en 24 heures dans le pire pays que je pouvais imaginer pour moi.
La France.
Voilà.
C'est une histoire incroyable, une histoire digne d'un roman de Kafka ou d'Orwell. L'histoire du professeur Adlan Hicher, physicien franco-algérien de haut niveau, condamné en 2012 à 4 ans de prison ferme pour avoir été suspecté de planifier des attentats terroristes sur la base de propos tenus sur le net. Des propos tendancieux, certes, mais qui ne sont que des propos. Il faut dire que son procès a été très médiatisé et qu'il s'est déroulé en pleine affaire Mera. Les autorités devaient afficher de la fermeté, montrer que si des attentats ont lieu, d'autres sont déjoués. Un bouc émissaire donc sur l'autel de la lutte antiterroriste. Sa peine purgée, Adlan Hicher part refaire sa vie au Brésil. Mais le pays plonge dans l'instabilité politique et voilà son affaire à nouveau propulsée à la une des médias brésiliens. Expulsé du Brésil en juillet dernier, Adlan Hicher est envoyé en France contre son gré, lui qui s'était juré de ne plus jamais y remettre les pieds. Assigné à résidence à Vienne, au domicile de ses parents, sans qu'aucun élément en dehors de son ancienne condamnation ne le justifie. Et l'histoire touche au paroxysme de l'absurde quand à l'audience du Conseil d'État devant lequel il conteste son assignation, le ministère de l'Intérieur refuse de le laisser quitter la France car il pourrait à tout moment y revenir. Le voilà donc coincé ici, assigné à résidence dans un pays où il ne voulait plus jamais retourner, avec comme seule issue pour sortir de ce guépier la déchéance ou le renoncement à la nationalité qu'il vient de demander. Une histoire incroyable, une fable contemporaine, celle d'un homme devenu un pion sur l'échiquier de la lutte mondiale contre la terreur.
Alors c'est pas ma voiture, c'est la voiture d'un papa, donc voilà, il y a le boxon.
Du coup on va où là?
Là on va dans un local qu'on m'a prêté, donc un bureau, il est pas loin d'ici. Hein. Ça va me permettre d'être au chaud parce que là...
Ouais, il commence à faire froid. Que... Ouais. Il pleut un petit peu.
Et surtout moi j'ai du mal à m'y faire à ce climat maintenant. Et en passant quelques années en climat tropical, je me suis habitué aux 40 degrés en été, puis aux alentours de 25 degrés en hiver. Il n'y a pas d'hiver là-bas, finalement. Toute l'année, on est en tenue légère.
Alors que là, c'est déjà... C'est pas la montagne, mais presque, quoi. On est à Vienne, dans l'Isère.
Ouais.
C'est une ville de combien d'habitants, à peu près, 30, à Vienne?
30 000 habitants.
Vous, c'est là où vous avez grandi?
Ouais, où j'ai grandi, ouais. À 18-19 ans, je suis allé sur Lyon pour les études. J'ai quitté la maison à 18-19 ans, typiquement. Donc après, j'ai roulé ma bosse un peu partout. D'abord dans la région, puis ensuite à l'étranger. Je devais me retrouver avec ma famille, soit en Algérie, soit au Brésil. Ils étaient prêts pour aller me visiter là-bas. Non. Ça économise des billets d'avion.
Votre famille, elle vit ici?
Oui, une partie. J'ai un peu de la famille en région parisienne, mais j'ai une partie ici, avec des parents qui vont et viennent entre l'Algérie et ici, puisqu'on a une maison là-bas. Quoi. Le bureau, il est là, c'est ce bâtiment-là. C'est un bureau d'études, en fait, d'ingénierie. Il y a certains jeunes que j'ai vu grandir, à qui j'ai même donné des cours d'électromagnétisme, de mathématiques quand ils étaient en ingénieur. Et donc maintenant, ils sont lancés, ils réussissent bien. Je suis vraiment content pour eux. Quoi. Et moi, je me retrouve dans la dèche.
Placez-vous sous la lampe, monsieur K.
C'est là.
Ainsi que vous pouvez le constater, nous faisons tout notre possible pour ne pas gêner le cours normal de votre existence.
Ils sont prévenus.
Ah, ils sont prévenus.
Oh, oui. Je fais les choses bien. Il y a un truc de cartographie. Puis le plus loin, il y a un bureau d'ingénierie.
D'accord.
On va se mettre là.
Ok, juste à l'entrée.
On est gâtés, là.
Ouais, un bureau chaud.
Alors, vous avez le choix. Thé, café, chocolat.
Ah, j'ai bien un café, alors.
Eh ben, on va vous amener direct à la machine. Comme ça, vous allez
ça
voir.
Ça marche. Okay. Bonjour, bah, je viens à un café. Ouais.
Pour Charlotte Perry, lundi, c'est le chef de notre petite équipe d'ingénierie.
D'accord.
Un sucre, je vous ai mis un sucre.
Et qui aime bien le calcul intégral comme moi. Hein.
Ah, c'est pas le même niveau. Hein.
C'est à 20 ans, ça remonte à, du cours. Là.
Quand j'étais au lycée, ouais, quand j'étais au lycée.
Hein. Moi, je lui donnais un coup de main.
T'étais déjà enseignant.
Ouais. Je m'en rappelle plus, j'arrive même plus.
Si, si, t'étais enseignant. C'est ouais. La fin de ta thèse.
Ça me rajeunit pas tout ça maintenant. Ça fait peur. Hein. L'eau, c'est bon ?
Ouais, non, mais ça ira. Du moment que c'est chaud. Et du coup, vous connaissez depuis combien de temps ?
Oula ! Mais lui, je l'ai fait ramper par terre.
Même quartier, même endroit.
C'est la même famille, c'est comme si c'était ma famille, c'est la même chose.
Vous avez grandi dans le même quartier ?
Oui, on a grandi dans le même endroit, je l'ai vu grandir.
Suivez les exemples, hein, c'est ceux qui allaient loin à l'école et qui réussissaient, ben, on a essayé de suivre leurs traces. C'est ce qu'on a fait, puis ça a plutôt bien passé.
Et aujourd'hui, du coup, vous faites quoi, vous ?
Moi, je suis ingénieur de formation, hein, par le cursus universitaire, et puis là, je suis gérant d'un bureau d'études, en génie électrique. Voilà.
Ouais. Bah, merci, en tout cas.
On va laisser travailler. Allez. Ouais.
Je peux uniquement vous dire, sous le contrôle de Bernard Cazeneuve, que tous les jours, toutes les semaines, des réseaux djihadistes sont démantelés, des personnes sont interpellées, des attentats sont régulièrement évités. Et vous le savez bien.
Ce qui m'arrive à moi n'a pas une grande importance. Mais sachez que mon cas n'est pas unique et que d'autres pourraient bien subir un sort semblable au mien.
La force, ça doit être aussi être lucide sur la menace. C'est pour ça qu'en effet, nous proposerons au Parlement de prolonger l'état d'urgence. Parce qu'il y a ce niveau de menace, parce que nous rentrons aussi dans une phase électorale et que la démocratie est très directement visée par les terroristes.
Et du coup, là, vous, votre situation, vous savez pas jusqu'à quand ça va durer comme ça. C'est jusqu'à la fin de l'état d'urgence.
Oui, cette semaine, il y a déjà eu des annonces comme quoi il y aurait une prolongation.
Jusqu'au moins présidentiel.
Oui, mais ça me concerne quoi, voilà. Je considère que ça me concerne pas, il va falloir trouver une solution à mon cas. Donc je me suis retrouvé sur le territoire à mon corps défendant, donc je n'ai pas à rester ici, c'est tout. Alors maintenant, ils ont lancé l'argument que je ne peux pas rentrer chez moi en Algérie parce que j'ai des doubles nationalités. Ben, la chose la plus cohérente et consistante à faire maintenant, c'est de demander cette perte de nationalité, puisque de toute façon, je ne me vois plus jamais vivre ici. Donc c'est totalement cohérent de la demander. Et c'est cohérent pour eux aussi. Parce qu'à partir du moment où je suis traité comme je le suis, c'est eux qui auraient dû prendre les vents et me déchoir. À partir du moment où on me considère comme une personne qui n'a pas le droit de vivre, du moins ici, je veux dire qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils me déchoient. C'est le plus haut niveau de dégradation, entre guillemets, dans le système. Moi, je leur demande d'être cohérent, c'est tout. Pourquoi ils se retrouvent timides tout d'un coup, ils sont timides, ils ne le font pas. Alors qu'il y a beaucoup de cas, dernièrement, qui sont des gens comme moi, qui ont été naturalisés, qui ont été condamnés, et qui ont été déchus derrière et puis expulsés. Donc je demande le même traitement. Je suis né algérien et j'ai été naturalisé à l'âge de 23 ans, sur le tard quand même. Donc ça devrait être très très facile dans mon cas. Ou, s'ils ne le veulent pas, moi je demande de toute façon, j'ai mon droit à renoncer, donc je demande la renonciation.
Vous avez entamé une procédure ?
Oui, donc ça fait déjà maintenant plus d'un mois que le courrier est parti pour la présidence, plus de deux semaines parti pour d'autres services. Ça n'arrange personne que je reste là sur le long terme, parce que déjà je ne vais pas me taire. Et c'est pas une situation viable pour personne. Même en termes politiques, ils vont tirer quoi ? Je veux dire, il n'y a rien à tirer.
Parce qu'aujourd'hui, votre situation, donc vous êtes assigné à résidence, ici à Vienne, dans l'Isère. Vous devez pointer trois fois par jour au commissariat.
Je ne peux pas sortir de la commune, du périmètre de la commune, c'est pas grand-chose. Donc c'est une prison à ciel ouvert, et puis j'ai un couvre-feu. Donc je dois être dans le petit appartement que louent encore mes parents, entre 20h et 6h du matin. Donc je me retrouve coincé dans notre appartement, vivant aux frais de mes parents retraités. C'est n'importe quoi.
Si vous ne pouvez pas travailler...
Non, mais il n'y a pas de centre de physique des particules à Vienne. Ensuite, n'importe quel travail avec un récépissé, sans papier d'identité. Hein. Je n'ai pas mes papiers d'identité qui ont été retirés. Donc je circule avec un récépissé. Quoi. Comment vous voulez, ne serait-ce faire que la moindre démarche administrative où vous vous trouvez dans des problèmes. Non, c'est fait pour tuer la personne. Un petit feu. C'est pas fait pour maintenir l'ordre public. On règle le compte à une personne pour le truchement de l'état d'urgence. Infligé, par exemple, à mes parents, ça aussi. Voilà, c'est dégueulasse aussi.
Ils sont à la retraite, vos parents ?
Oui, depuis un bon bout de temps maintenant. Donc.
Et votre père, du coup, il faisait quoi ?
Alors lui, il faisait la maçonnerie. Il a fait, je crois, 37 ans de carrière. Il se cassait le dos dans les chantiers.
Lui, il est arrivé quand, en France ?
64. Ici, c'était les 30 glorieuses. Donc ici, on avait besoin de main d'œuvre. C'est dans cette vague-là que mon père y allait.
Vous êtes arrivé quand en France ?
Ah oui, alors là, j'ai été amené, je ne suis pas arrivé. J'aime bien utiliser ça. J'ai été amené en 78, je crois. Alors fin 77, début 78, j'ai à peine un an. Et le projet à l'époque, c'est dingue.
Le projet, c'est qu'on reste, que mes parents restent quelques années, et puis qu'au moment de rentrer au CP, là, l'équivalent du CP en Algérie, ben, ils rentrent en Algérie pour que j'attaque l'école là-bas. Et de fil en aiguille, ils se retrouvent à rester ici, et puis voilà. Donc, ouais, comme quoi, le destin, c'est quelque chose de... Il y a un poète, le Motanabbi, le poète irakien, il disait que le vent ne souffle pas toujours dans la direction que veulent les capitaines de navires. C'est exactement ça. C'est un peu une odyssée. Hein.
ومن حسن حظي من حسن حظي أن الذئاب اختفت من هناك مصادفة أو هروبا من الجيش.
Peut-être bien qu'on a dit des histoires sur
ça se pourrait.
لا دور لي في حياتي سوى أنني عندما علمتني تراتيلها قلت.
Des bruits, il y en a toujours qui courent sur tout le monde.
هل من مزيد؟
Quel genre de bruit؟
وأوقدت قنديلها ثم حاولت.
Comme un bruit qui court.
Comment vous êtes retrouvé dans cette situation? Comment vous êtes retrouvé assigné à résidence ici le 16 juillet à Vienne, alors que vous y viviez plus depuis longtemps?
Bah là, on va faire comme les effets qu'on a dans certains films. On prend une situation par la fin, on voit une personne dans une situation très difficile, et puis après, le film fait un flashback. Hein. Tout a commencé tel jour, voilà. Comment on se retrouve dans cette situation où j'étais en train de travailler tranquillement en Amérique latine, puis en un clin d'œil, je me retrouve en France, et puis en un clin d'œil, je me retrouve bloqué sans pouvoir vivre, interdit de retourner chez moi en Algérie. Donc, bah, ça a commencé il y a 7 ans, cette histoire. 7 longues années, avec cette affaire de 2009. Donc, on m'interpelle chez moi, chez mes parents déjà, c'était déjà ici que ça se passait. Le jour où je devais partir en Algérie pour un petit voyage.
Vous faisiez quoi, vous, à l'époque, en 2009?
Alors, en 2009, j'étais à la fois chargé de cours à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et chercheur détaché sur le CERN.
Le CERN, c'est le Centre Européen de Recherche Nucléaire.
Oui, mais contrairement à l'acronyme, ce n'est pas un centre de physique nucléaire. L'acronyme est historique. Hein. C'est un laboratoire européen de physique des particules. Ce sont deux choses bien différentes.
C'est ça, votre spécialité, la physique des particules.
Exactement, exactement. Donc, j'ai obtenu un poste en Suisse romande. Et donc, je travaillais entre 2006 et 2009. Enfin, 2009, c'est l'année noire de ma vie, je l'appellerais, parce que j'étais très malade tout au long de l'année. Et puis, au moment où on m'interpelle, le 8 octobre 2009, j'étais encore en mi-temps thérapeutique, donc en fin de convalescence.
Qu'est-ce que vous aviez?
Ah oui, j'avais eu un mélange de problèmes. Ça commençait par une sciatique hyperalgique, puis une hernie, puis une infection nosocomiale, et puis une thrombose. Thrombose. J'en ai bavé, quoi. Là, bon, l'interpellation, c'est toute une histoire, quoi. C'est... Parce que, quand même, on m'a fait très mal. On m'a détruit ma vie. On m'a ruiné. On a fait de l'idéologie sur mon dos. On a vendu une politique sur mon dos. On m'a fait beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, je ne le souhaite à personne, même mon pire ennemi.
8 octobre 2009, Adlan Hicher est arrêté par les policiers antiterroristes. On lui reproche d'avoir échangé 35 mails sur des forums islamistes avec un membre d'Al-Qaïda Maghreb.
Des courriers extrêmement explicites dans lesquels il discutait de l'opportunité de réaliser des attentats terroristes en France.
Il aurait proposé des cibles, dont le 27e bataillon de chasseurs alpins engagé en Afghanistan.
Est-ce qu'en France, il y a eu aussi des attaques potentielles déjouées?
Oui, absolument. Nous avons eu un individu auto-radicalisé qui a essayé de poser une bombe dans un bataillon de chasseurs alpins. Nous l'avons interpellé avant.
Adlan Hicher reconnaît avoir surfé sur des forums islamistes. Pour le reste, le dossier est vide, affirme son avocat.
Donc c'est au vu de simples mots échangés qu'Adlan Hicher se trouve condamné à cette peine scandaleuse de 4 années d'emprisonnement.
Comme disait Maître Baudouin au procès, devant tant de mensonges, je ne sais pas par où commencer. Quoi. Quand il a commencé à plaudoir, il a dit « mais devant tant de mensonges, ça va être difficile. » Il y a trop de mensonges, il y a trop de choses, ça le fait d'un coup. Et à la fin, vous vous retrouvez face à un tsunami de mensonges. Et au bout de 2 ans et demi, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes fatigué par une détention, vous êtes éreinté. Le procès n'est plus un procès, on sait très bien ce qui commence à se passer. C'est un peu comme le taureau que vous faites saigner, et puis à la fin, vous avez le matador qui est le dernier pic. Quoi. Le procès, c'est le dernier pic quoi, pour achever la bête. Quoi. Puis après, on le coupe l'oreille et puis on jubile devant le public. Quoi.
Qu'est-ce qu'il y avait dans votre dossier pour vous, comme élément concret?
On a vu des connexions Internet suspectes, donc des participations à des forums suspects ou des forums surveillés, etc.
il n'y avait pas grand-chose. Là, on m'a réussi à me condamner sur une base, je ne suis pas sorti chez moi, de mon lieu de convalescence.
Mais chez vous, ils ont retrouvé des armes, des plans d'attaque
Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Du tout, du tout. Ils ont rien trouvé tout cela, donc c'est ça le pire, quoi. Genre.
Donc, du coup, vous avez été condamné sur la base d'emails.
C'est très simplificateur de parler d'emails, parce que c'est des intermittences entre emails échangés, participation à des messageries privées de forums, etc. Et tout ça, c'est très découpé dans le temps. Il n'y a pas de suite logique. Et après, c'est ces éléments que vous mettez en épingle pour donner un trame à une histoire. C'est vraiment ça. Instrumentaliser des éléments pour créer un profil d'une personne qui est malfaisante ou potentiellement malfaisante.
Et du coup, au final, vous avez été condamné pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.
Oui, voilà, tout seul. Et même Marc Trévidic était sur l'affaire. Hein. Il a été dessaisi. Il ne voulait pas délivrer un mandat de perquisition, etc. parce qu'il pensait que c'était prématuré, qu'il n'y avait pas d'éléments. Hein. Et donc, il a écrit deux bouquins sur l'antiterrorisme. Et dans le deuxième bouquin, il décrit mon affaire. Il dit c'est l'association malfaiteur la plus simple de l'histoire parce que c'était Adeline Hichard avec un fantôme du New Web. Et quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec l'assignation en résidence, mais c'est des choses horribles. Comme quoi, j'ai participé à la logistique d'un groupe armé, on me colle des choses. Dans 10 ans, je serai le bras droit de Ben Laden aussi.
Un furieux sentiment d'impuissance me terrasse, me vide de ma substance à mesure que le temps passe. Je n'ai pas choisi le wagon, ni même la direction, et je m'enfonce tout droit dans ce tunnel funèbre en perdition. Une odeur putride plane et lacère l'atmosphère. J'ai la rétine choquée devant le charnier à ciel ouvert. Je ne me reconnais pas dans ce monde, je n'y trouve pas ma place, et je suffoque perdu dans le dédale des couloirs de l'angoisse. Ce train n'a ni queue ni tête, il roule à vive allure et écrase tout sur son passage. Moteur au bord de la rupture, à l'intérieur c'est la panique. Les neurones court-circuitent, ça va trop vite pour établir. On connaît tous la suite, maudit soit la race des puissants. Aiguilleurs du chaos, leurs instincts suicidaires et leurs penchants pour l'échafaud au coin des lèvres. Toujours cette arrogance, ce petit rictus, mais ils oublient que pour eux aussi il n'y a qu'un mur comme terminus. Arrêtez ce train. Arrêtez ce train, je veux descendre. Arrêtez ce train. Là-bas, il n'y a plus rien que du feu et des cendres. Arrêtez ce train. Arrêtez ce train, j'ai dit, je veux descendre. Arrêtez ce train. La foule crie, le scandale, personne ne veut l'entendre.
Donc au final, vous êtes ressorti de prison, c'était en 2012, oui. 4 mai 2012. Oui. Vous n'avez pas fait appel de la condamnation ?
Faire appel pour retomber dans un tribunal qui va vous recondamner. En plus, au prononcé du jugement, il y avait un mandat de dépôt assorti. Parce que normalement, quand on vous condamne, vous pouvez être libérable et préparer votre appel dehors. Mais là, on a prononcé un mandat de dépôt assorti à l'appel pour bien me faire comprendre que je resterai en prison. Donc si je fais appel, je reste en prison, c'est tout. Alors ceci dit, la peine, on ne m'a pas interdit d'accéder à la fonction publique, ce qui est c'est curieux pour un terroriste. Je n'ai pas de mesure de sûreté, je n'ai pas eu de prévention de droit civil. Donc c'est bien que, quelque part, la présidente à l'époque, même si elle se sentait obligée de me condamner, elle savait que c'était du bidon. Alors elle a fait un truc à minima.
Donc en sortant de prison en mai 2012, vous avez fait quoi ?
Je sors en 2012, la confiance en le système aux institutions est zéro. Donc la première priorité, c'était de trouver un job ailleurs et partir. Priorité, là, ça se résume en un verbe, partir. Partir, partir. Partir loin de cet enfer. Vous savez, j'ai lu aussi bien dans la sphère culturelle occidentale que la sphère culturelle musulmane et arabe. Je me rappelle Nature, la revue Nature à l'époque, elle disait que j'aurais pu être un fantastique pont qui est en train d'être cassé. Ils ont dit ça. Un bridge. Au lieu de le voir comme une richesse potentielle, ils sont en train de briser. Peut-être que j'aurais dû être un espèce de Prométhée, hein, qui, une fois qu'il a reçu la science, renie Dieu. Peut-être c'est ça qu'on attend de moi. Et ça, non.
Du coup, en sortant de prison en 2012, vous avez fini par aller au Brésil.
J'ai eu cette proposition qui est venue du Brésil, ou des collègues du Brésil qui m'ont proposé de venir. Ça s'est fait comme ça. Et puis, c'était très étrange pour moi, l'Amérique latine, hein, je découvrais. Puis le Brésil en particulier, puis la chaleur tropicale, puis les moustiques. Donc je suis arrivé là-bas au Brésil avec les yeux grands ouverts dans un d'un enfant qui découvre tout. Et beaucoup d'ambition et beaucoup de volonté. Quoi.
Et du coup là-bas, vous travaillez sur quoi ?
Le même genre de thématique sur lequel j'ai toujours travaillé, donc la physique des quarks lourds. Donc c'est les composants les plus fondamentaux de la matière nucléaire, on va dire. C'est ce qui constitue les protons, les neutrons, etc. En dessous, vous avez les quarks.
Moi, pour moi, c'était une expérience vraiment importante, très intéressante, point de vue humain aussi. Et c'est dommage que ça se termine comme ça. Mais j'étais très bien là-bas.
Vos problèmes, ils ont commencé quand au Brésil ?
Alors, fin 2015. Octobre 2015, ça commence avec une visite de la police fédérale à la maison. Ils ont pris mon ordinateur, ils ont fait une copie du disque dur, puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils trouvent ?
En octobre 2015, c'était encore le gouvernement de Dilma Rousseff.
Oui, mais elle était déjà dans le sale drap, déjà. Alors, il n'y avait pas une semaine où il n'y avait pas des articles, mais avec des insultes. Hein. Je voyais des titres de journaux ou de magazines, la vagabonde. C'est une présidente de la République élue. Donc je suis arrivé à janvier 2016, et là, il y a cette campagne médiatique, et là, je dis, bon, ceux qui veulent me nuire ou nuire au gouvernement Dilma ou je ne sais pas quoi, sont passés à une autre vitesse, quoi, à la vitesse supérieure. Et là, il fallait y être pour vraiment prendre l'ampleur de la chose. Il y a un magazine qui sort un reportage complet, et les gars, ils étaient en train de refaire mon procès en portugais, en public, et dans un pays dangereux qui est le Brésil, hein, où les gens sautent sur d'autres dans la rue parce qu'ils sont fait brûler le crâne par les médias. Quoi. Et donc, ce magazine lance le premier reportage complet, enchaîne des titres de quotidien, enchaînement Journal National, j'ai eu le droit au Journal National, d'autres chaînes de télé, c'était l'horreur pendant 2 semaines. Et chaque fois, c'était le gars condamné, et c'est du martèlement, condamné.
C'était quoi les accusations ? C'était Dilma a fait rentrer un terroriste, en gros.
Non, mais plus ça, c'est mensonger. C'est-à-dire que j'étais irrégulier, que j'étais rentré en catimini, que Dilma m'a fait rentrer en catimini, ça partait dans tous les sens. Et le message, à la fin, voilà, la conclusion du reportage, il n'a rien à faire au Brésil. Et puis c'est contradictoire, parce que fin janvier, déjà, il y a un article de Globo qui dit « La police fédérale et l'agence de renseignement, la BIN, hein, n'ont rien contre Adenicher. » Donc, une fois que vous avez dit ça, le 28 janvier, ils ont dit ça, c'est fini. Présenter des excuses, rembourser, voilà. Eh ben non, ils ont continué. Février, mars, jusqu'à avril, il y avait encore un article sur moi.
Et leur but, c'était de nuire à Dilma en premier.
Oui, le but, mais la violence était tellement exagérée contre ma personne qu'il n'y avait pas que ça. Parce qu'il y a toute une espèce de doctrine sécuritaire qui était en train d'être importée au Brésil. Et la preuve, en février 2016, un mois après le reportage, il y a une loi antiterroriste qui est votée. Donc on a une espèce d'alignement des services de sécurité brésiliens sur les doctrines qui ont lieu en Europe de l'Ouest et aux États-Unis. Et tout le monde convenait de ça, quoi. On avait discuté avec des intellectuels et tout le monde disait, voilà, on sait ce qui est en train de se passer. Même. Bon, après, donc la température est montée crescendo au niveau politique. Hein. Et puis on arrive au summum qui est le 11 ou 12 mai, le 11 mai, je crois, où il y a le vote de l'impeachment. C'était une grande mascarade. Les discours de ceux qui votaient étaient incroyables. Quoi. C'était d'une violence inouïe. Elle a été destituée et là, le jour suivant, une équipe intérimaire qui a été formée. Donc en catastrophe, ils amènent le ministre de la Justice qui m'a viré.
C'est Alexandre Moraes.
L'ancien responsable de sécurité de São Paulo. Il était déjà connu pour des méthodes ultra répressives et très violentes. Et il n'y a pas que moi qui a payé le prix parce qu'il a déclenché une campagne d'arrestation quelques jours après ma déportation donc de 12 musulmans brésiliens. Sur tout le territoire. Et j'ai appris le mois dernier qu'il y en a un qui est mort en détention. Il a été lynché par des co-détenus. Il est en détention provisoire, il est mort.
Une partie du discours de Dilma Rousseff est juste la veille de sa destitution.
Entre os meus defeitos, não está a deslealdade e a covardia.
Comme tout le monde, j'ai des défauts et je fais des erreurs. La trahison et la lâcheté ne font pas partie de mes défauts.
Que defendo ou os que lutam ao meu lado.
Je respecte les engagements que je prends et je ne trahis ni les principes que je défends ni ceux qui luttent à mes côtés.
As marcas da tortura. Amarguei por anos o sofrimento da prisão. Vi companheiros e companheiras.
Dans la lutte contre la dictature, j'ai reçu dans mon corps les marques de la torture. J'ai supporté pendant des années la souffrance de la prison. J'ai vu des camarades violentés et même assassinés. À cette époque-là, j'étais très jeune. J'attendais beaucoup de la vie.
J'ai résisté
à la tempête de terreur qui commençait à me submerger. J'ai lutté pour une société libérée des préjugés et des discriminations. J'ai lutté pour une société sans misère ni exclue. J'ai lutté pour un Brésil souverain, plus égalitaire et où régnerait la justice. J'en suis fier et que lutte celui qui sait qui croit.
Comment vous êtes retrouvé expulsé du Brésil ?
Officiellement, le terme, c'est déportation. Donc l'expulsion au Brésil, c'est autre chose. L'expulsion, c'est que l'étranger a fait quelque chose de mal. Soit il paye une amende ou il fait de la prison, puis il est expulsé, soit il est expulsé directement. Ah, c'est comme dans beaucoup de pays. Mais moi, c'est une déportation. Déportation, c'est vraiment un truc lié à la légalité du séjour lui-même. Donc, on ne notifie pas. C'est une déportation, on ne notifie pas. Le jour même, on vient sous contrainte physique, on m'emmène de la maison jusqu'à l'aéroport.
Donc là, on est le 15 juillet 2016.
Le matin. Et moi, je leur dis, ben, c'est impossible. Je suis complètement régulier ici et je travaille et voilà. Ils me disent, ouais, mais c'est un ordre direct du ministre. C'est une décision politique. Donc, j'ai laissé tout tel quel dans l'appartement. Tout tel quel. Je suis parti. Moi, à ce moment-là, je ne suis pas encore conscient de l'ampleur de l'intrigue. Je commence à réagir, je dis, ben, moi, je vais rentrer chez moi en Algérie. Je suis rentré comme Algérien ici, physicien algérien, voilà. Donc, mon permis de travail est sur le passeport algérien. Et ben même ça, ils l'ont grillé. C'est eux qui m'ont acheté mon billet et qui ont acheté les billets des trois autres policiers qui étaient à mes côtés dans l'avion.
Vous avez été escorté par trois policiers ?
Trois policiers. Une femme et deux hommes. Quand j'ai dit, j'espère que vous n'allez pas m'envoyer en France, surtout pas là. J'ai dit, il y a l'état d'urgence. Et c'est, ça, c'est dans la déposition. Et le gars qui prend les notes, il a un petit sourire qui me fait peur. Je dis, oh là là, lui, il en sait plus que ce qu'il est en train de dire. Et on m'a pas embarqué sur la passerelle. On m'a emmené de force dans une voiture jusqu'au pied de l'avion. C'est-à-dire que je n'ai pas embarqué avec les autres passagers. Ah oui, j'étais sur le tarmac, avec des policiers sur le tarmac, comme si c'était une extradition ou comme si c'était je ne sais pas quoi, là, Pablo Escobar, je ne sais pas. Non. C'est ignoble. C'est ignoble.
Vous écoutez France Inter, le flash, avec vous, Laetitia Gaillet.
Un homme condamné un jour pour un acte terroriste demeure-t-il à jamais une menace? Le Conseil d'État s'est penché sur la question aujourd'hui. Question posée par un franco-algérien qui conteste son assignation à résidence fondée sur une condamnation qui date, elle, de 2012. Le Conseil d'État rendra sa décision plus tard vendredi.
Du coup, vous êtes retrouvé déporté du Brésil de manière complètement illégale. Envoyé en France contre votre gré, oui. Et arrivé en France, donc France sous état d'urgence, juste après les attentats du 14 juillet.
À la sortie de l'avion, il y a déjà la police qui m'attend. Quoi. Et donc on me conduit vers les locaux de la police aux frontières. L'arrêté de destination était déjà prêt.
Parce que jusque-là, le point de vue du ministère de l'Intérieur, c'est ce qui a été dit au Conseil d'État, à l'audience. Mais nous, monsieur, on n'a jamais voulu de vous. On se serait bien passé de votre présence en France.
Oui, mais quand il s'agit de me laisser repartir, ils ne veulent pas. Il faut qu'ils assument qu'ils sont dans une opération de séquestration de ma personne sur le territoire français par le truchement d'état d'urgence. Puisque à partir du moment où je demande à continuer mon trajet vers l'Algérie, on l'empêche. Parce que j'ai la double nationalité, donc je pourrais revenir à tout moment sans contrôle.
Parce qu'aujourd'hui, l'argument du ministère de l'Intérieur pour vous assigner à résidence, c'est que si vous laissez repartir en Algérie, étant donné que vous avez un passeport français, vous pourriez revenir...
À tout moment sans contrôle.
Voilà, à tout moment sans contrôle, avoir été rencontrer des gens, MACMI ou je ne sais quoi là-bas en Algérie, et revenir commettre un attentat ici en France, et que par conséquent, votre nationalité française fait qu'on ne peut pas vous laisser partir comme ça.
Ah, mais ça, c'est un délire. Bon, le reste, là, je passe sur les possibilités qu'ils imaginent. Ça fait 3 ans que je suis en dehors du territoire français. À tout moment, pendant ces 3 dernières années, j'aurais pu revenir ici. Puis il y a un autre argument de mauvaise foi, c'est que si les Brésiliens l'ont expulsé, ils parlent d'expulsion, c'est qu'il y a une raison liée à la sécurité publique, là-bas. Déjà, il n'y a pas eu d'expulsion, il y a eu une déportation. Ensuite, on a eu tous les témoignages nécessaires, ils ont toute la paperasserie, incluant les déclarations du ministre, de l'auteur même de la déportation, qui dit clairement qu'ils n'avaient rien contre moi.
Qui dit que s'il y avait eu quelque chose contre vous, vous auriez été arrêté, quoi.
Voilà, j'aurais été interpellé puis pénalisé. Donc ça, tout le monde le sait, c'est notoire. Hein. C'est des déclarations publiques. Donc non, là, on en est à vouloir faire la misère à une personne. Et c'est là où l'état d'urgence, il est extrêmement dangereux. Ça donne des pouvoirs énormes à des gens qui sont sans contrôle. Si les contrôles ne s'exercent plus, ben là, on ouvre la porte à ce qui est en train de se passer, à tout l'arbitraire possible. Et là, je ne vise pas un homme politique en particulier, je parle de gens qui sont dans les services ou dans les institutions et qui, eux, ont des positions qui ne dépendent pas de mandat. Voilà ce qui est important. Et les présidents, les ministres, ça circule, mais des gens, ils ne bougent pas. Il faut que les gens ils comprennent comment marche un État aussi. On est au-delà du Kafka et de Orwell mélangés. C'est incroyable. C'est comme si les services brésiliens ont agi comme un prolongement d'état d'urgence sur le territoire brésilien. C'est très très grave ce qui s'est passé. Ça fait 4 mois que je suis sans salaire, je suis sans activité aucune, je ne peux pas vivre, je ne peux pas construire quoi que ce soit, le temps défile, et je suis censé rester tranquille au calme, etc., et à pointer comme un imbécile 3 fois par jour au commissariat. C'est incroyable.
Je sais pas qu'est-ce qui peut se passer, quoi. On m'a fermé un compte en banque sans raison, celui de mon frère, ma belle-sœur. Voilà, je me demande ce qui se passe. Qu'est-ce qui est en train de se passer? À quoi ils jouent, ces gens-là? À quoi ils jouent?
Et alors là, pour vous, la seule issue, c'est cette perte de nationalité, quoi.
C'est la seule chose cohérente pour moi et puis pour l'administration. Ça va dans le sens des intérêts de tout le monde, pour peu qu'il y ait un minimum de raison encore.
Et en attendant, là, l'avenir, vous le voyez comment?
C'est dur de faire des projets quand on est dans une situation difficile, puisqu'on a tendance à broyer du noir. Mais je refuse de céder au pessimisme. C'est-à-dire que la dernière fois, je me suis remis dans un coup qui était très 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 dur. C'est-à-dire passer 30 mois à Fresnes, pour s'en remettre, c'est très très dur. Et j'ai réussi ce défi de rediriger la rage de l'injustice vers ce qui est positif. Canaliser, utiliser cette énergie pour construire. Et je pense que je suis capable encore de le faire, même si c'est dur. Hein. On ne s'habitue pas à l'injustice. On l'accumule en nous. Mais il faut se relever, il faut avoir le courage, il faut trouver l'énergie. On est des êtres humains, on peut flancher, on peut fléchir, mais il ne faut pas s'effondrer. Donc il faut se relever, essayer de continuer à rêver. Je pense que tant que je continuerai à rêver, je pourrai continuer à avancer. Et ça, c'est encore le cas.
Du coup, vous rêvez de quoi?
Ah, de plein de choses. Ce que je peux faire en Algérie, par exemple. Bah, les énergies, bon, là-bas, il y a plein de soleil, donc je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire avec. Et puis ensuite, développement durable, tout ce qui est agriculture durable, le bio, les trucs comme ça, ben, peut-être inculquer une culture de ça là-bas. Pourquoi pas? Pourquoi pas, je sais pas. Il faut étudier. Mais j'ai ça. Tant qu'on a confiance en soi, on n'a pas de souci à se faire. Parce que la valeur ajoutée, c'est l'homme. Et ils n'ont pas compris ici, c'est là. Le moteur de tout ça, c'est l'homme dans cette équation.
Voilà l'incroyable histoire d'Adlan Hicher coincé entre Kafka et Orwell. Et tout de suite, on part avec Antoine Chao et les enseignants mobilisés pour l'éducation prioritaire.
Comme un bruit qui court.
Sur France Inter.
Petite salle de grève, salle Francisco Ferrer, Force du Travail à Paris.
On commence l'AG là, parce qu'il est déjà 10h20 et normalement on a la salle jusqu'à midi.
Alors déjà une première chose, donc il y a Comme un bruit qui court, donc l'émission sur France Inter qui souhaiterait enregistrer les discussions sur l'AG. Il n'y a pas d'opposition? Ok. Bon.
Merci.
Quand on voit d'où on part, c'est-à-dire trois lycées au départ qui avaient signé l'appel Touche pas à ma ZEP, et là on en est à 78 sur 12 académies différentes.
Moi c'est David Pigeon, je suis parti comme CAI de ce collectif Touche pas à ma ZEP.
Ça veut dire quoi, REP, REP plus, moyen? Qu'est-ce que c'est qu'être en éducation prioritaire?
Je suis au lycée Montpassant de Colombes.
Lycée Paul-Éluard de Saint-Denis.
Lycée Mozart au Blanc-Ménil dans le 93.
Ludovic de Romain-Roland-Goussainville.
Champigny, donc dans le Val-de-Marne, Langevin-Vallon.
Raphaël du lycée Fédère à Épinay-sur-Seine, donc là on est 5.
Pierre du lycée Galilée de Gennevilliers.
Bonjour Julien, je suis enseignant à Colombes au collège Moulin-Joly en réseau d'éducation prioritaire, zone sensible, prévention violence et peut-être un ou deux trucs en plus, je sais pas.
Ils étaient déjà dans la rue le 29 septembre pour défendre l'éducation prioritaire parce que derrière la valse des sigles, labels et dispositifs, c'est toujours les moyens qui manquent et les inégalités qui se creusent. Et le CNESCO, le Conseil National d'Évaluation du Système Scolaire, le confirmait dans son dernier rapport publié en septembre. Alors, les jeunes enseignants réunis dans le collectif Touche pas à ma ZEP se mobilisent pour plus de justice sociale à l'école. Et jeudi, c'était journée de grève, AG le matin et manif l'après-midi.
Alors, je suis Fanny Bernard, professeure de philosophie au lycée Jean-Jacques Rousseau dans le Val d'Oise à Sarcelles.
Alors on sort d'une AG hein, qui est à l'appel du collectif Touche pas à ma ZEP ou c'est plus largement déjà une intersyndicale hein, qui appelait à cette AG ce matin?
Alors les deux, à la base c'est parti de professeurs isolés dans différents lycées de l'éducation prioritaire qui ont fait le collectif Touche pas à ma ZEP, puis l'intersyndicale a rejoint ce collectif. Alors ZEP, c'était un label qui a été créé, qui voulait dire zone d'éducation prioritaire. Donc l'idée, c'était de dire que dans certaines zones de France, dans certains lycées, collèges et même écoles primaires et maternelles, il y avait des élèves qui devaient avoir une éducation prioritaire parce qu'ils avaient plus de besoins, parce qu'ils n'avaient pas de capitaux culturels, sociaux et économiques favorables à réussir leur scolarité. Et donc on devait leur donner plus de moyens. L'éducation nationale devait mettre plus d'heures pour eux, plus d'accompagnement aussi au niveau des assistantes sociales, des infirmières et même au niveau du nombre de profs, qu'il devait y avoir des classes à effectifs réduits pour pouvoir mieux suivre ces élèves qui avaient plus de demandes. Donc en effet, après, concrètement, qu'est-ce que ça a été sur le terrain? C'est très compliqué. Même les profs, on a du mal à suivre parce que d'abord, il y a eu ce label ZEP qui était en collège et en lycée. Mais après, pour les lycées, il y a eu d'autres labels, par exemple, zone prévention violence, politique de la ville et tout un tas d'autres aussi que je ne connais même pas parce que bon, je suis jeune prof, donc je débarque un peu dans tout ça. Mais en tout cas, ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'au niveau des lycées, c'est que d'année en année, même les lycées qui ont des sigles qui devraient leur permettre d'avoir plus de moyens, les perdent. C'est-à-dire qu'il y a des lycées où cette année, on a eu 35 élèves par classe, alors que l'année dernière, il y en avait 25 élèves par classe. Il y a des lycées où il y avait 4 CPE et on se retrouve à 2 CPE. Donc c'est-à-dire qu'il y a une perte de moyens d'année en année, même s'il y a ces sigles. Donc nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est vraiment de revoir tout à la base, hein. De revoir à la fois quels sont les moyens qui doivent être donnés en plus à ces lycées, à ces collèges et à ces écoles, mais aussi quels sont les établissements qui sont concernés. J'ai fait mon stage il y a 2 ans dans un lycée qui était classé éducation prioritaire à Aubervilliers, où j'étais contente de voir que je n'avais que 20 ou 25 élèves par classe, que j'avais des heures en plus pour vraiment aider les élèves. Donc quand j'ai dû choisir, faire mes vœux pour mes mutations, je n'ai pas hésité une seule seconde à demander Sarcelles, puisque je me suis dit, là-bas, peut-être que le public sera difficile, mais on aura des moyens pour les aider. Et moi, c'est là où je trouve du sens à mon métier, d'aller dans les endroits où le professeur apporte vraiment quelque chose aux élèves. Et malheureusement, quand je suis arrivée à Sarcelles cette année, bah, j'étais très déçue de voir que j'avais des listes d'élèves de 34 élèves. Et en tout, cette année, je me retrouve avec 200 élèves à devoir former à la dissertation, à l'explication de texte et aux études supérieures. Et je me rends compte que sans moyens matériels, on a beau avoir toute la volonté du monde, toute l'énergie, toute la passion pour notre matière et pour notre métier, et bah, c'est pas possible.
Il y a des gens qui viennent de loin ici, il y a des gens du lycée Montaterpe. S'il y en a qui ne connaissent pas, c'est à côté de Creil, une région boisée et fleurie de l'Oise. Voilà. Et donc, ils sont venus depuis l'Oise à notre manif en région parisienne. Donc ça prouve, là encore, que le mouvement il s'amplifie. La dernière fois, il y avait Dreux. Et cette fois-ci, on a même le Créillois qui est avec nous à Paris pour les lycées en éducation prioritaire.
On est devant Sciences Po hein, pour cette manif pour défendre donc l'éducation prioritaire.
Oui, c'est ça.
Alors vous tenez la banderole hein, du lycée
Jules Hury. Alors on est venu, on est deux lycées de l'Oise, Jules Hury à Creil et André Malraux à Montaterre. La réforme qui a été engagée il y a 2 ans excluait les lycées de l'éducation prioritaire. Et donc du coup on s'était déjà mobilisé il y a 2 ans. Donc du coup, les moyens qui étaient alloués pour l'éducation prioritaire dans les lycées, ils avaient été prolongés de 2 ans. Là, on arrive au terme de ces 2 ans et puis on nous annonce qu'on doit attendre les prochaines élections présidentielles pour en savoir plus sur à quelle sauce on va être mangé. Donc du coup, on est là pour se mobiliser et puis faire valoir nos droits.
La seule solution pour l'instant qui est proposée par le ministère, c'est de prolonger les primes aux enseignants, ce qui est vraiment ne pas comprendre du tout nos revendications. C'est pas une question de primes, c'est une question de statut pour nos lycées et faire en sorte qu'ils puissent bénéficier des mêmes aides que les collèges. Ce sont les mêmes élèves qui grandissent, ils ont les mêmes besoins, on doit donner les mêmes réponses. La jeunesse s'est déjà exprimée ces 10 dernières années. Elle a montré qu'elle avait besoin, que la République devait s'occuper d'eux. Si la République les abandonne encore, on a peur de ce qui pourrait arriver.
Alors devant Sciences Po, beaucoup de lycées qui se mobilisent. Et vous, vous venez du lycée Sugère à Saint-Denis,
ouais.
Hein, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Alors quelle est la situation à Sugère? Il y a eu
des grèves et des mouvements. Dès la rentrée, 2 semaines de grève sur des questions de moyens justement. Un surveillant s'était fait agresser le jour de la rentrée. Ça a été l'accident qu'on attendait avec peur, avec angoisse depuis des années, en disant il n'y a pas assez d'adultes dans cet établissement. Il n'y a pas assez de surveillants, il n'y a pas assez de profs, il n'y a pas assez d'agents d'entretien, il n'y a pas assez d'adultes dans un établissement qui n'est pas évident, qui est situé sur un territoire compliqué, pas loin de la grande cité des Framboisins. On alertait par courrier l'administration pour dire qu'il manquait du monde. Et le jour de la rentrée, un surveillant s'est fait violemment agresser en poste, dans l'exercice de ses fonctions, par un mélange d'enfants, de jeunes, d'ados, qui étaient du lycée et pas du lycée. Mais dans le lycée, quoi. Et à la rentrée, il n'y avait que 7 surveillants à temps plein dans l'établissement. Alors après, c'est difficile à apprécier. Nous, il n'y a pas d'étalon dans la loi, il n'y a pas de texte pour dire, voilà, pour tant d'élèves, il faut tant de surveillants, il n'y a pas... nous, on regarde par rapport aux établissements alentours qui sont dans le même genre de territoire. On était sous-dotés. On avait moins de surveillants quoi, que les autres. Et les autres, eux-mêmes, les autres établissements, disaient qu'ils avaient moins que dans le centre de Paris, par exemple. Alors, nous, on est sur nos postes de travail. On est enseignants. On bataille tous les jours dans nos classes pour faire réussir les élèves. On n'est pas des spécialistes des statistiques. Il faut prendre du temps pour aller voir, pour comparer comment ça se passe dans d'autres établissements, comment ça se passe dans d'autres territoires, dans un centre-ville bourgeois, c'est quoi la différence. Tout ça, ça prend du temps. Souvent, on n'a pas ce temps-là. Alors, heureusement, il y a des rapports qui sont faits. Enfin, il y a un rapport de la Cour des comptes, il y a quelques années, qui disait qu'on donnait plus à ceux qui ont déjà plus ou on donnait moins à ceux qui ont moins. Par exemple, un lycée de banlieue, ça coûte pas cher. Ça coûte vachement moins cher qu'un lycée de centre-ville. Pour plein de raisons, parce que les enseignants sont souvent moins diplômés, il y a moins d'agrégés, ils sont moins en fin de carrière, donc ils sont moins payés, moins d'expérience aussi. Et sur le coût des établissements, il y a des rapports qui montrent clairement que dans les établissements qui relèvent de l'éducation prioritaire, contrairement à ce qu'on dit, il y a moins d'argent en fait, globalement, qui est mis dans ces établissements-là. Nous, ces inégalités-là, on les vit au quotidien. C'est-à-dire que globalement, par exemple, à la pause, dans un établissement du 93, il y a plein de jeunes dans un lycée, dans le préau, dans la cour, etc. Et il y a finalement assez peu d'adultes en fait, qui sont là. Quand un surveillant est agressé, on met du temps à le remplacer, pour plein de raisons. Mais voilà, quand un enseignant est en arrêt, on met du temps à le remplacer, dans une situation où il y a déjà assez peu d'adultes. Nous, dans le lycée, là, il y a 1400 élèves, il n'y a que 3 CPE, donc 3 conseillers principaux d'éducation. Donc ceux qui encadrent la vie scolaire, qui s'occupent de la suivi de la scolarité, qui luttent contre le décrochage, qui gèrent les absences. 3 personnes pour gérer 1400 gamins. C'est complètement délirant. Alors bon, après, évidemment, ils sont assistés par les assistants d'éducation, qu'on appelle les surveillants, mais qui sont assistants d'éducation. Mais disons que l'encadrement de cette vie scolaire, par des professionnels de la vie scolaire, est complètement dérisoire par rapport aux enjeux en fait, de l'éducation en banlieue. Complètement dérisoire. Et tout est à moyen constant. Alors ça c'est la règle, c'est bon, on est dans un cadre austéritaire, c'est la rigueur. Donc il n'y a plus de fric nulle part, soi-disant. Donc tout peut se faire à moyen constant. Alors depuis quelques années, là, ce qui se passe, c'est que la nouvelle solution pour régler les problèmes de l'éducation en banlieue, c'est de dire, c'est pas un problème de moyens, c'est un problème davantage de ce qu'on fait dans les classes. Problème de pédagogie, par exemple. Autrement dit, tout le travail des militants pédagogiques depuis au moins un siècle et demi, voire 2 siècles, qui vient du mouvement ouvrier, qui vient du mouvement social, etc., il se trouve récupéré et avalé à la sauce libérale pour dire, en fait, c'est pas un problème de fric, c'est un problème d'activité pédagogique, de démarche pédagogique, de comment est-ce qu'on fait apprendre aux élèves. Donc voilà, la solution à l'heure actuelle, c'est de dire, on va optimiser les moyens existants, et puis après, on va regarder si les profs travaillent bien dans leur classe. C'est une situation qui est complètement délirante.
Je trime, tu trimes, il trime, elle trime, nous trimons, vous trimez, ils et elles friment. Je travaille, tu travailles, on travaille, nous travaillons, vous travaillez, ils et elles ont fait une belle trouvaille. Je survis, tu survis, il survit, elle survit, nous survivons, vous survivez, ils et elles surveillent. Je subis, tu subis, on subit, nous subissons, vous subissez, ils et elles ont mis notre cerveau surveille. Je consomme, tu consommes, il consomme, elle consomme, nous consommons, vous consommez, ils et elles nous en sommes. Je fais un somme, tu fais un somme, il fait un somme, elle fait un somme, nous faisons un somme, vous faites un somme, ils et elles nous assomment. J'achète, tu achètes, on achète. Ils et elles feront tout pour ne pas que ça s'arrête. Je me maltraite, tu te maltraites, on se maltraite. Ils et elles feront tout pour que ça dure jusqu'à la retraite. Des verbes se conjuguent étrangement, l'ordre libéral en matière de conjugaison regarde des changements. Des classes verbales sont jour qui diffèrent entre elles, franchement. Mingle, terminé son tour, je m'inquiète quand je prends mon pêcherel. Des verbes se conjuguent étrangement, la lutte des classes en matière de conjugaison regarde des changements. Selon que t'as affaire aux oligarques ou aux sans-dents, les terminaisons le marquent, la différence s'entend.
On en vient maintenant à cette étude du Conseil national d'évaluation du système scolaire qui mesure la ségrégation scolaire.
Alors, je suis Nicolas Kemoun, professeur de sciences économiques et sociales au lycée Guy de Maupassant de Colombes, donc membre du collectif Touche pas ma ZEP et syndicat à la CGT.
Alors, il y a un rapport du CNESCO qui vient de sortir, hein, il y a quelques mois maintenant. Ouais. et du coup qui pointe hein, justement sur les inégalités scolaires.
Alors ce rapport a réfléchi sur les inégalités scolaires en France selon l'origine sociale et a pointé le fait que finalement en France on parvenait très bien à faire réussir une certaine élite qui a un très très haut niveau dans les tests internationaux, mais en revanche que les inégalités entre élèves de différentes origines sociales sont particulièrement élevées dans notre pays. Et donc un des éléments du CNESCO, c'était évidemment d'étudier la question de l'éducation prioritaire, de savoir si ça avait été suffisant pour juguler les inégalités. La conclusion du CNESCO est de dire que les inégalités n'ont pas diminué suite à la mise en place de cette politique d'éducation prioritaire, mais également de souligner que finalement cette politique elle a été assez peu ambitieuse, puisque elle a permis simplement de réduire d'un ou deux élèves par classe les effectifs par rapport à des lycées qui ne sont pas en éducation prioritaire ou des collèges. Et donc évidemment, avec un ou deux élèves en moins par classe, on ne peut pas espérer corriger des inégalités qui sont liées au capital culturel des familles, etc. Donc nous, notre interprétation, et dans la réponse qu'on a faite dans la tribune publiée dans Le Monde, ça a été de dire qu'en fait, si les inégalités sociales sont particulièrement importantes dans notre pays, c'est certainement pas en enlevant des moyens dans les collèges et lycées éducation prioritaire qu'on va parvenir à les combler. Certes, il faut transformer un peu la manière d'enseigner, mais si ça se fait avec une baisse des moyens, c'est voué à l'échec. Alors ce rapport, il a été utilisé politiquement en disant d'une manière assez grossière, avec une manipulation qui consiste à dire puisque les inégalités scolaires n'ont pas diminué depuis la mise en place de l'éducation prioritaire, c'est que l'éducation prioritaire est un échec et donc il fallait supprimer cette politique, elle était inefficace, etc. Sauf que le rapport du CNESCO est beaucoup plus, en fait, quand on l'a lu, est beaucoup plus nuancé, puisqu'il il fait l'hypothèse que peut-être en l'absence de cette politique d'éducation prioritaire, comme les inégalités économiques ont explosé dans toute la société, eh bien les inégalités scolaires auraient peut-être explosé avec, et peut-être que cette politique d'éducation prioritaire a permis justement de les contenir un minimum, quoi. Voilà. Et même la présidente du CNESCO a déclaré que la conclusion du rapport, c'est absolument pas qu'il faut supprimer l'éducation prioritaire, mais c'est d'analyser la manière dont elle s'est mise en place, et notamment le manque d'ambition aussi des moyens qui ont été accordés à ces établissements.
Le 29 septembre, on était en grève, c'était seulement en région parisienne. Le 11 octobre, on était en grève en région parisienne, mais aussi à Marseille. Là, aujourd'hui, on est en grève dans toute la banlieue parisienne. Le 92, le 95, le 78, le 91, le 94, le 93, et même à Paris dans le 75, parce que pour la première fois depuis le début du mouvement, il y a une lycéenne parisienne qui est là aujourd'hui, majoritairement et très massivement en grève. Mais il n'y a pas que la région parisienne, il y a des lycées. À Toulouse, le collège REP de la Rennerie est en grève aujourd'hui avec nous. Donc là, c'est la première victoire pour notre mouvement. Une journée massivement suivie et du coup, une délégation au ministère. On va être reçu au ministère aujourd'hui. Il y a une délégation de lycées mobilisés qui, pour la première fois depuis le 11 octobre, va être reçue au ministère. Et ça, c'est le résultat de notre mobilisation, de notre grève et de notre présence aujourd'hui dans la rue. Dans tous les quartiers, dans toutes les régions, un même droit.
Donc je suis David Pigeon, je suis professeur de maths au lycée Guy de Maupassant de Colombes dans le 92.
Dans tous les quartiers, un même droit. Il y a toujours la délégation au ministère.
Alors ils arrivent dans...
David, est-ce que tu peux me présenter le collectif donc Touche pas à ma ZEP?
Avec plaisir. Le collectif Touche pas à ma ZEP, ils viennent lycées mobilisés en éducation prioritaire, ou qui devrait être en éducation prioritaire. L'éducation prioritaire, ça veut dire quoi? C'est peut-être pas très clair pour les auditeurs, pour les gens qui nous écoutent. C'est ce qui s'appelait avant ZEP, zone sensible, zone violence, éclair. Il y a une jungle de sigles éducation nationale là-dessus. Donc en gros, c'est les lycées... dans nos quartiers populaires, donc beaucoup là, par exemple en banlieue parisienne, vous êtes à la manif du 93, du 95, du 78, mais aussi de Marseille, de Dreux, donc dans des quartiers populaires où nos élèves viennent de collèges ou d'écoles qui sont classées éducation prioritaire aussi. Maintenant, ça s'appelle REP Plus depuis la réforme de 2015. Normalement, ils arrivent au lycée et les moyens sont maintenus pour qu'on arrive à les amener jusqu'au bac. Donc ça vient de lycées justement qui se mobilisent pour sauver l'éducation prioritaire en lycée qui aujourd'hui est remise en cause par le ministère qui veut en finir avec nous. Comment on peut justifier d'abandonner les élèves au moment où ils peuvent obtenir un diplôme, c'est-à-dire à 16 ans? On les suit jusqu'à la 3e, et au moment où ils peuvent obtenir un CAP ou un bac pro, on les abandonne en leur supprimant tous les moyens spécifiques qu'ils peuvent avoir liés à l'éducation prioritaire. C'est incompréhensible, c'est inadmissible. Ce qui explique aussi voilà, l'unité quoi, dans ce mouvement.
C'était comme un bruit qui court. Toutes les informations sont sur le site de France Inter. Juste après les infos, prenez les routes de la musique avec André Manoukian et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.